Du coup, il oblige le capitaine de l'équipe de France à en faire autant. Si Maillard n'avait pas réalisé cette performance, Diagana aurait été sélectionné d'office sous le régime des minima B, qui autorise une nation à engager un athlète et un seul par épreuve. D'ici la date butoir du 13 août, il reste 5 meetings au programme. Par le passé, Diagana s'est toujours retrouvé lorsqu'il était au pied du mur.
Et les mondiaux d'athlétisme, ce sera du 23 au 31 août au Stade de France.
C'était le journal de Franck Mattevon qu'on retrouve tout à l'heure pour l'édition de 19h. Le temps chaud continue et est-ce qu'il va continuer? Les prévisions avec Jacques Kessler de Météo France.
La météo avec Super U, magasin hyper et supermarché.
37 degrés cet après-midi en Île-de-France et en Alsace, 38 dans le Val-de-Loire et le Lyonnais, 39 sur le Midi toulousain, 40 dans l'intérieur de l'Aquitaine, des températures sous abri à l'ombre et qui pourront encore progresser entre aujourd'hui et demain. On risque d'atteindre 42 degrés demain après-midi en Gascogne et dans l'intérieur de la Provence. Pour retrouver des chaleurs aussi fortes dans le passé, il faut remonter à juillet 1983. Pour échapper à la canicule, direction les côtes de la Manche et de la mer du Nord, éventuellement celle du Languedoc-Roussillon si l'on est dans le sud, mais il va quand même faire plus chaud demain, 31 degrés prévus au Havre. Du côté du ciel, aussi bien cet après-midi que demain, beaucoup de bleu avec un soleil ardent, des passages nuageux tout de même sur la Bretagne, pouvant donner quelques ondées éparses cet après-midi. De manière très localisée, des bandes de brume tenaces sur les côtes du Narbonnais au Roussillon et quelques nuages orageux en montagne. Pas d'orage prévu, mais peut-être une averse. En général, cependant, ce sera la sécheresse totale. Il n'est heureusement pas prévu de mistral.
Vous écoutez France Inter, il est 13h32. Nous retrouvons tout de suite Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
Bonjour à tous. Cette semaine, 5 grands témoins de 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, un ancien harki, témoin d'une des pages les plus sombres de la guerre d'Algérie, Brahim Sadouni.
Je porte à jamais cette tache indélébile. Je suis harki. Cela se voit sur mes vêtements, mon visage, ma démarche. J'ai fait le mauvais choix. Il ne me reste plus qu'à m'en repentir. Brahim Sadouni, destin de harki.
D'histoire. Quand l'armée française a décidé d'employer des harkis pour se battre à ses côtés pendant la guerre d'Algérie, elle n'imaginait sans doute pas le sort qui leur serait réservé si leur pays accédait un jour à l'indépendance. Personne ne pensait qu'un jour la France pourrait quitter ses départements d'Algérie, et personne ne prévoyait non plus quel serait le destin des harkis, désarmés et abandonnés en 1962, et dont le sort fut presque aussi tragique des deux côtés de la Méditerranée. En Algérie, où des dizaines de milliers d'entre eux furent massacrés au lendemain de l'indépendance, aussi bien qu'en France, où les harkis et leurs enfants sont encore victimes du racisme et de l'ingratitude d'un pays pour lequel, il y a presque 50 ans, ils avaient pourtant choisi de se battre.
Des chefs jeunes et courageux, des hommes de choix, presque tous des volontaires, beaucoup de Français musulmans, dont une bonne part d'anciens rebelles ralliés. Voici le commando, voici mon commando. L'adversaire, la Katiba. Ainsi, ces jeunes soldats de métropole et ces jeunes musulmans, au coude à coude sur la terre française, animés de la foi tranquille de ceux qui se battent pour un idéal juste et grand, parviendront ensemble à la victoire.
Brahim Sadouni, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait partie de ces musulmans dont parlait cette archive de l'armée pendant la guerre d'Algérie. Vous en parlez aussi dans un livre émouvant qui vient d'être publié chez Cosmopole, Destin de Harki. Un livre qui commence au moment où vous aviez 12 ans, vous gardiez des moutons dans les Aurès, au moment où s'est déclenchée la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954. Qu'est-ce que vous pensiez à l'époque de ceux que cette archive appelait des rebelles, qu'on appelait aussi des terroristes? Qu'est-ce que vous éprouviez au moment où s'est déclenchée la guerre d'Algérie? Dans les Aurès, hein, c'est dans les Aurès surtout que ça a commencé.
Au début, c'était pour nous des bandits, des assassins. Et puisque, comme je le dis dans mon livre, il y a eu cet assassinat de l'instituteur et d'un musulman dans le car qui reliait Harris Biskra. Et partout ailleurs, des représailles furent entreprises contre les musulmans, d'ailleurs particulièrement eux, qui refusaient de se soumettre à la loi, la nouvelle loi, celle du FLN. Mmh. Moi, à cette époque-là, et bien évidemment, j'étais un gosse et surtout j'écoutais les grands parler. Mmh. Et je me suis en quelque sorte, comme enfant, disons, pris dans cette histoire que par la suite, évidemment, effectivement, je vais découvrir avec tout son lot de guerres.
Avec des soldats qui arrivent, des hélicoptères, alors, vous me disiez avant de commencer cette émission.
Alors ça, bon, le premier jour, effectivement, cet hélicoptère qui vient résonner notre vallée avec ses palmes ruantes, ses moteurs, c'était pour nous quelque chose d'extraordinaire puisqu'on n'en avait jamais vu. Bon, moi encore, comme je disais, un gosse et puis il y avait les adultes aussi parce que ça, on n'en a jamais vu d'hélicoptère. À partir de ce jour-là, effectivement, un bouleversement est venu changer l'image du pays avant l'arrivée, bien sûr, de toute l'armée française.
Vous étiez trop jeune à ce moment-là, Brahim Sadouni, pour vous engager, même pour faire un choix politique, bien sûr. Cela dit, est-ce que déjà on commençait à engager ce qu'on appelle des harkis?
Alors, dans la première période, il y avait, bien sûr, on recrutait des volontaires. C'était des goumiers, qu'on appelait ça, des goumiers, pas des harkis, des volontaires pour protéger particulièrement les Européens. Parce qu'il y en avait, comme les instituteurs, comme les préfectures, puisque c'était une sous-préfecture à Ris. Les gens qui étaient là, des Européens, des chercheurs, ou... Eh bien, on recrutait ces goumiers et ils montaient la garde dans le petit village d'Aris, quand je dis le petit village européen. Mmh. Et tout autour, et bien sûr, il y avait les habitants qui étaient avec des déchras, des mechtas, tout ça. Donc, ces goumiers étaient présents, ils avaient des grands fusils. Je ne connais pas leur nom, je m'excuse, mais c'était des fusils à trois coups.
Alors, vous, ensuite, avec l'âge venant, vous avez travaillé, vous avez fait des petits travaux, notamment auprès de soldats français qui se trouvaient dans la région, dans les Aurès. Vous ne vouliez pas devenir harki. Quand vous l'êtes devenu, c'est presque malgré vous. Vous êtes arrivé un jour dans un poste militaire où vous souhaitiez être mécano et vous vous retrouvez avec un fusil.
Alors, je sortais de l'école de Constantine. Grâce à une dame qui était pied noir, qui m'avait envoyé à l'école, et ne voulait pas que je reste plongeur ou mécanicien, ou plutôt serveur dans un restaurant. Et là, j'ai réussi quand même, puisque j'ai eu mon CAP de mécanicien. Et je suis allé, donc, à une SAS pour demander à faire de la mécanique.
Et ça, c'était les sections administratives spéciales.
Voilà. Et c'était les Mokhazni, ce qu'on appelle les Mokhazni. Premier jour, bon, ben, je commençais à faire la mécanique déjà le premier jour. Et le deuxième jour, bon, on m'amène au magasin pour me donner un treillis, un paquetage et un fusil. Bon, j'avais refusé parce que pour moi, mon intention, c'était pas de faire la guerre parce que sinon, j'aurais pas fait de stage de mécanicien. J'avais un métier. Moi, la guerre était loin de mon cœur. Et c'est pas pour ça que j'avais pas de la sympathie pour la France et même pour l'Algérie. Voilà. Pour moi, la guerre, ce n'était pas la mienne.
C'est comme ça que vous êtes devenu harki.
Alors, je suis devenu harki. L'étau s'est refermé. Et j'ai quand même tenu... J'étais loyal. J'ai tenu parole jusqu'au bout.
C'est dans le petit village de Foix, situé à quelques kilomètres de Gemmap, dans l'arrondissement de Puyville, que sont rassemblés ce soir quelques 800 harkis venus de tous les points de la région à l'occasion de la fête de l'Aïd Friv, qui est la fête qui marque la fin du jeûne, la fin du Ramadan. Au moment où je vous parle, les harkis sont rassemblés autour des feux au-dessus desquels cuisent les fameux méchouis, des moutons que l'on fait cuire entiers à la broche en les enduisant de graisse. Les harkis chantent et dansent et ils sont là rassemblés autour des feux à la lueur des torches, leurs fusils pointés vers le ciel car ils ont conservé pour la plupart l'arme à la bretelle. Et il faut reconnaître que c'est un spectacle absolument intéressant de voir ces harkis qui chantent et qui dansent dans ce sol d'Algérie pour faire troubler. Ici une fois, RTL.
Alors c'était un reportage enregistré pendant la guerre d'Algérie à Philippeville, l'actuel Skikda, un peu au nord de l'endroit où vous vous trouviez, Brahim Sadouni. Est-ce qu'à l'époque vous aviez conscience de ce que vous risquiez en vous battant aux côtés de l'armée française?
Disons oui, d'une partie bien sûr déjà de mourir, parce que personne, enfin moi j'aimais pas la guerre, je vous le disais, Et puis, d'un côté, je ne comprenais pas assez bien ce qui se passait. Il y avait beaucoup d'autres harkis, bien sûr, à tout Arris, c'était que des harkis, l'armée française. J'imaginais pas, franchement, qu'il allait y avoir une séparation. J'étais trop jeune pour raisonner de cette façon. Et puis, cette guerre, je me la sentais pas personnellement.
Alors, cela dit, quand même, vous le dites, c'est assez bouleversant, c'est assez impressionnant. Votre père était en France, je crois que lui était du côté du FLN, et il vient vous voir, il est absolument épouvanté que vous soyez entré dans les harkis. Vous êtes vraiment, beaucoup de gens vous tournent le dos, il y a notamment une jeune fille dont vous êtes amoureux et dont le père est furieux qu'elle puisse fréquenter un harki. Vous êtes déjà une espèce de réprouvé à ce moment-là, Brahim Sadouni.
Alors, cette fille, il s'agit de Zora. Lorsque j'étais harki. Mmh. Donc, moi, je voulais l'épouser. Mais elle, elle voyait ça autrement. Il fallait que je trahisse l'armée française. Et que soit je déserte, ou que je fasse rentrer les FLN dans les casernes, la nuit. Et j'ai refusé, parce que, au fin de compte, j'avais demandé à ma mère. Et il n'y avait pas qu'elle, d'ailleurs, qui me relançait là-dessus. Et ma mère m'avait interdit de faire ce genre de choses, parce qu'elle craignait que je déclenche un massacre. En faisant rentrer le FLN, automatiquement, ça se résulterait par un massacre. Par contre, mon père, c'est plus loin, c'est-à-dire à l'indépendance. Et c'est là que je vois mon père, parce qu'avant, je ne le voyais pas. Il était en France. Il n'est rentré qu'en 62, c'est-à-dire à l'indépendance de l'Algérie. C'est là que je me suis rendu compte qu'il était pour le FLN.
Alors, ça a vraiment profondément divisé des familles, Brahim Sadouni. Vous avez, par exemple, votre cousin qui vous demande, lui aussi, de travailler pour le FLN, de donner des renseignements au FLN. Il y a une conversation entre lui et vous qui est assez terrible. Il vous demande, je crois, de donner des armes ou des cartouches au FLN qui se bat dans les montagnes. Ça a vraiment divisé les familles, cette guerre.
Tout à fait, puisque d'autres harkis l'ont fait. Il ne faut pas oublier que des harkis, je ne sais pas combien, mais c'est-à-dire ils le faisaient sous chantage. Parce que le FLN faisait un chantage. Si on leur donnait pas des munitions ou on ne donnait pas de l'argent, ils pouvaient y avoir des représailles contre nos propres familles à nous. Donc vous voyez que c'était difficile, tout en évitant que l'armée française découvre qu'on travaillait avec eux. Mais mon cousin, lui, il a essayé de m'influencer et la même chose, j'ai dit non.
Il vous dit, votre cousin, il dit, réfléchis Ibrahim, songe à la reconnaissance que te manifestera le FLN le jour de l'indépendance. Vous n'y croyez pas du tout à l'indépendance, vous, à ce moment-là.
Disons que c'est
des années 60, pourtant.
C'est vrai, moi, je n'y croyais pas, parce que, vous savez, comme je vous disais, un jeune pris dans cette tourmente, on peut vous dire toutes les promesses, mais je ne voulais pas fréquenter ce genre de choses, voilà. C'était à ce moment-là, il y avait un blocage. Et puis je ne pouvais pas faire ce genre de choses et je n'y croyais pas aussi.
L'indépendance, elle devenait malgré tout inéluctable lorsqu'en 1962 sont signés donc les accords d'Évian. Jacqueline Baudrier au micro de la RTF le 19 mars 1962.
Interactualité.
Au micro, Jacqueline Baudrier. Depuis midi, l'ordre de cesser le feu a donc été donné aux forces armées en Algérie. Que va-t-il se passer maintenant en Algérie? Car c'est bien de cette interrogation inquiète que tout va dépendre, tout ce qui peut être sauvé, la coopération, cette réalité qui est celle du travail accompli, de cette œuvre immense réalisée depuis 130 ans et qui fait que l'Algérie a besoin de la France et la France de l'Algérie.
Cessez le feu, lundi 19 mars, midi, instruction pour application cessez le feu, exécutoire, même jour, même heure. Télé, le télégramme adressé hier soir à 18h30 par le général Ayré, commandant supérieur des forces en Algérie, à toute l'Algérie, aux trois corps d'armée, marine, Sahara et 5e région aérienne.
Quel souvenir avez-vous gardé, Brahim Sadouni, de ce 19 mars 62? C'est une date importante pour l'ensemble, d'ailleurs, de tous les protagonistes de la guerre d'Algérie, mais vous qui étiez harki dans les Aurès.
C'est vrai, le souvenir que j'ai gardé, c'est cette tristesse de tous les autres harkis. Parce que, encore une fois, si je me rendais pas encore vraiment compte, je m'excuse, mais c'était tellement la naïveté. Mais les autres harkis, effectivement, étaient tristes et ils pressentaient déjà qu'il allait avoir une catastrophe.
Parce que le cessez-le-feu, ça veut dire le désarmement des harkis, le départ de l'armée française.
Le désarmement ne s'est pas fait tout de suite. puisqu'il a été fait qu'un mois après, en nous regroupant dans un autre village. Et là, on a regroupé pratiquement beaucoup de SAS, il y en avait 3 ou 4, et on nous a fait un méchoui, et on nous a fait des discours par lesquels que l'indépendance de l'Algérie donc allait venir, et que la France allait partir, et que la paix était signée, et que les harkis n'avaient rien à craindre, et que la France était là pour les protéger. En quelque sorte, elle garantissait la protection aux harkis. Et d'un autre côté, on nous avait enlevé nos armes.
Vous y avez cru, vous, à cette protection?
Non. Après, non. J'ai plus cru.
Vous assistez quelques mois plus tard, en juillet, à l'indépendance de l'Algérie, et vous dites, ces mots terribles, cette fête qui n'est pas la mienne. Vous êtes algérien, l'indépendance de l'Algérie est proclamée en juillet 62, et vous vous sentez déjà exclu.
Effectivement, j'étais pas du bon côté. Alors, je pouvais pas savourer une fête qui n'est pas la mienne. Même si, au fond, je suis du même peuple, entre guillemets, mais effectivement, je la ressentais pas. D'où il y avait la présence de Bembella, où j'ai pas voulu l'applaudir, où quelqu'un m'a
dans
tapé,
votre village qui est arrivé.
Oui. Voilà, qui m'a frappé sur l'épaule, il m'a dit, tu préfères applaudir ton lieutenant. Et là, je me suis retourné. Ce monsieur, je l'avais sauvé des griffes de l'armée française. J'ai témoigné comme quoi que c'était un homme qui ne fréquentait pas, ni le FLN, et c'était quelqu'un d'assez honnête. Vous voyez, finalement, on se retrouve le dos au mur.
Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque un certain nombre de harkis ont préféré quitter l'Algérie pour la France en 1962.
Un groupe de 600 harkis est arrivé à Millau cet après-midi. René Reynaud s'y trouvait.
Au long du parcours, à Nîmes, à Béziers, comme à Millau, la Croix-Rouge et diverses associations locales d'entraide avaient délégué leurs membres pour apporter des boissons et des casse-croûtes à ces musulmans qui servirent sous notre drapeau et qui ont voulu aujourd'hui revenir en métropole. Charriant de lourds sacs, les hommes, pour la plupart, portaient encore la tenue militaire. Les enfants et les femmes, dans leurs vêtements colorés mais aux teintes délavées, traînaient de maigres baluchons et arboraient de pauvres bijoux de pacotille. Y a-t-il longtemps que vous servez dans l'armée française?
Depuis 57.
Et vous?
Depuis 57.
Et est-ce que vous êtes marié?
Oui.
Est-ce que vous avez des enfants?
Oui, j'en ai deux.
Est-ce qu'ils vous accompagnent aujourd'hui?
Oui.
Est-ce que vos parents sont restés en Algérie?
Non, c'est mieux, parce qu'on a peur de faire la guerre.
C'était une archive de 1962, le retour de quelques harkis. Ils n'étaient pas très nombreux à revenir en France. Les conditions, on a tout fait pour en empêcher beaucoup de rentrer.
Tout à fait. Il y avait 260 000 harkis. Et là, j'entends, il y en avait 600 qui sont arrivés. Alors, vous n'avez qu'à faire la déduction. Nombreux ont été massacrés dans des conditions horribles. Et puis, ceux qui ont pu quand même arriver en France... Ils ont été parqués dans les camps. Et ceci, je dois le dire, grâce à certains officiers français qui ont bradé, qui ont en quelque sorte refusé l'ordre qui a été donné. Et ils ont pu rapatrier, entre autres, quelques harkis.
Alors vous êtes resté pendant 2 ans en Algérie. C'est vraiment le moment le plus extraordinaire de votre livre, parce que c'est vraiment impressionnant. Vous êtes littéralement traqué. D'abord, vous êtes votre père revient de France, où il était, où il travaillait, vous nous l'avez dit, pour le FLN. Puis vous avez ce mot terrible, vous insulte, vous décidez de quitter votre village. Vous dites, je sais désormais que je suis une surcharge sous ce toit, dans ce pays, et même sur cette terre. Je ne suis plus rien, un nul, un zéro, un chien à achever. Vous étiez en Algérie à ce moment-là et vous vous retrouvez tout seul sur les routes de l'Est algérien.
Oui, j'ai même voulu mettre fin à ma vie parce que je ne pouvais plus supporter. C'est un moment terrible quand vous avez à peine 20 ans puis que vous vous retrouvez comme ça. Votre père, d'autant plus, vous savez très bien que le père compte beaucoup. C'est le chef de famille, c'est l'exemple chez nous. Or, si votre père vous chasse, il n'y a que ma mère qui a essayé un petit peu de me protéger, mais elle ne faisait pas le poids.
Et vraiment, vous assistez même à quelques règlements de compte des harkis qui sont effectivement battus en public. Une femme même qui se jette sous les roues d'un camion, un soldat français qui s'en va. Vous en voulez à ce moment-là beaucoup à l'armée française.
J'en voulais énormément à la France, c'est vrai. J'en voulais parce que... J'en veux pas à la France profonde, mais je veux dire à ce pouvoir politique de l'époque qui en quelque sorte trahit ces hommes. Et comme je vous disais au début, chez nous, les Chaouis particulièrement, quand on a donné la parole, c'est à la vie et à la mort.
Chahoui, c'est les habitants des Aurès, voilà. C'est des Berbères, hein,
c'est
Berbères, comme les Kabyles. Alors, là, vous partez à Batna, vous allez travailler comme mécano, vous changez de nom, on vous retrouve tout le temps, il y a toujours quelqu'un qui vous reconnaît. C'est assez terrifiant, vous êtes obligé de... Vraiment, vous vivez quasiment comme un clochard voilà. À Alger, en Algérie, pendant 2 ans, comme ça.
À Batna, oui. J'ai réussi quand même à trouver un travail, et entre guillemets, avec quelqu'un que je connaissais, et cette personne m'avait pris chez elle, et puis au bout d'un jour, il y a un Félène qui m'a reconnu, c'est peut-être, je ne sais pas le hasard, mais il m'a reconnu, et là, il m'a donné ce qu'on appelle la traque, quoi. Et j'ai dû fuir encore, et vivre, comme vous disiez, comme un clochard, avec un autre harki qui lui aussi a fui plutôt de sa ville.
Et qui va vous aider à revenir en France, enfin à venir en France. Vous découvrez la France en 1964, vous traversez la Méditerranée, vous installez comme soudeur à Rouen, vous essayez un peu d'oublier votre passé. Il vous revient constamment d'ailleurs à la figure, vous vous inscrivez au Parti communiste, et puis un jour vous déclarez qu'il faut défendre les harkis. À ce moment-là, on vous accuse d'être, on découvre que vous êtes harki, on vous accuse d'être un traître, d'autres vous accusent d'être un arabe, on vous traite de bico, de bougnoul, c'est vraiment... C'est terrible aussi, c'est pour ça que je disais que c'est presque aussi terrible des deux côtés de la Méditerranée, le destin des harkis, Ibrahim Sadouni.
Oui, c'est un océan complètement en turbulence, puisque j'adhère au Parti communiste, et le jour où j'ai soulevé le problème des harkis, m'a lancé en pleine figure que les harkis étaient des traîtres. Et à partir de là, j'ai compris qu'il fallait que je me batte.
Et c'est à ce moment-là, effectivement, que vous vous battez pour défendre ceux qui ont fait le même choix que vous et auxquels s'intéressent encore quelques journalistes français, la revue de presse Stéphanie Lenker.
Oui, en 1965, à lire la presse française, tout se passe pour le mieux pour les harkis qui se retrouvent souvent dans des centres d'accueil ouverts spécialement pour eux, à la Cité des Quatre Saisons, par exemple, dans les Basses-Alpes. L'Aurore se félicite que l'intégration des Français musulmans se fasse sans heurts et avec beaucoup de délicatesse. De même, au village de Roquestéron, l'arrivée de 60 familles de harkis a redonné vie à ce village abandonné, se réjouit le Figaro. L'école a rouvert, les hommes travaillent à l'entretien des forêts, un excellent esprit règne et, ajoute le Figaro, la fusion des races est parfaite. En moins de 10 ans plus tard, la réalité est tout autre. En 1973, Jean-Claude Guilbaud consacre une série d'articles dans Le Monde aux harkis, les oubliés de l'histoire, où il dénonce les injustices et surtout la détresse morale dont ils sont victimes. Pour le flic, la concierge ou le patron, je suis un bico, dit ce harki de Dreux. Pour les immigrés algériens, je suis un sale traître. Alors, qu'est-ce que je suis ? Victime aussi, notre Jean-Claude Guibaud, de l'oubli des politiques, que ce soit la droite, hier encore, dit-il, frémissant d'émotions militaires, nos chers harkis, et qui aujourd'hui, dans la même précipitation xénophobe, parle des bougnoul, entre guillemets. Ou dit-il que ce soit la gauche qui a tant d'injustices à dénoncer qu'elle a peu de sollicitude pour ses traîtres, traîtres entre guillemets. En coup de gueule aussi de Philippe Marcovici, dans Combat, ces hommes et ces femmes, dit-il, pour avoir un jour cru à la parole donnée, se retrouvent aujourd'hui chez eux en France comme des parias, des étrangers. Mais c'est surtout les grèves de la faim en 74, à Évreux et à Paris notamment, qui révèlent au grand public la condition des harkis. Les Français musulmans, des hommes broyés par l'histoire et abandonnés de tous, écrit le Figaro. Et la Croix, ils sont obligés de se laisser mourir de faim pour que l'on se souvienne qu'ils sont Français à part entière et non des Français entièrement à part. Hélas, les propos sont parfois plus idéologiques, comme le dénonçait tout à l'heure Jean-Claude Guibaud. Libération, par exemple, à la question « Qui sont les harkis ?» répond « Ils furent des outils de l'appareil répressif de la France coloniale en Algérie, des collaborateurs, pions essentiels à la justification du fait colonial. » À l'opposé, voilà comment l'Aurore prend position en faveur des harkis. « Un sujet très préoccupant, écrit l'Aurore, pour lequel M. Pompidou devrait montrer autant, si ce n'est plus, de sollicitude qu'à l'égard des immigrés algériens, parmi lesquels figurent, il ne faut pas l'oublier, d'authentiques terroristes égorgeurs de Français. »
Pompidou qui était président de la République à l'époque, Brahim Sadouni, c'est terrible, là, on voit dans ces articles, dans ce recueil de textes par Stéphanie, on voit bien le fait, vous êtes des traîtres partout, vous avez tenté vous-même en 75 de retourner en Algérie, vous êtes refoulé de votre pays.
Oui, j'ai été refoulé parce que j'étais harki et ça, on passe pas. Alors, d'une manière assez brutale d'ailleurs, les insultes, et ça, les politiques, qu'ils soient français ou algériens, n'essaye de rien faire, en quelque sorte. Il y a beaucoup d'autres harkis qui ont été refoulés.
En tout cas, c'est le moment que vous choisissez pour entreprendre une véritable croisade. Hein. Alors, on n'a pas le temps, il nous reste trop peu de temps pour évoquer les marches extraordinaires que vous racontez. Une marche à pied de Dunkerque à Marseille pour montrer que ça, on ne va plus jusqu'à Tamanrasset, comme on le disait autrefois. Une marche de Rouen jusqu'à Monte Cassino. Vous rencontrez le pape, vous rencontrez aussi le premier ministre en 1988 de l'époque, Jacques Chirac. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on recevait une délégation de harkis à Matignon.
Alors, j'étais pas une délégation, j'étais tout seul.
Tout seul,
officiellement, en quelque sorte.
Et Jacques Chirac, qui 10 ans plus tard était président de la République, quand il s'est exprimé à l'occasion de la journée de reconnaissance nationale des harkis, le 25 septembre 2001.
Le moment est venu pour nous tous, Français, de porter un regard de vérité sur une histoire méconnue, une histoire déformée, une histoire effacée. Cette histoire est celle de nos frères d'armes qui attendent de la France, la patrie qu'ils ont choisie, qu'elle défende leur honneur et leur témoigne l'estime et la reconnaissance auxquelles ils ont droit. Que justice soit enfin rendue à leur honneur de soldats, à leur loyauté, à leur patriotisme.
C'était Jacques Chirac il y a un an, le 25 septembre 2001, un peu plus d'un an. Est-ce que vous avez le sentiment que justice a été rendue au harki Brahim Sadouni, aujourd'hui, ouais, 40 ans après la guerre d'Algérie?
En toute franchise, non. Moi, j'attends quelque chose de plus, c'est que l'État français reconnaisse sa responsabilité de ce qui a été fait au harki. Pourquoi? Tout simplement, c'est l'État français qui les a abandonnés, alors il est logique que ce soit l'État français qui reconnaisse sa responsabilité.
Est-ce qu'aujourd'hui, 50 ans après votre engagement comme harki, un engagement involontaire, pratiquement, vous regrettez votre choix, Brahim Sadouni?
Ah, je pense que c'est mon destin, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Bon, j'ai 60 ans, vous voyez, 40 ans après, j'ai toujours encore les souvenirs comme si c'était hier. Alors, j'avais pas le choix, c'est le destin, mais je suis dedans.
Ces souvenirs, on les retrouve aussi, Brahim Sadouni, dans votre livre très émouvant, Destin de Harki, qui a été publié chez Cosmopol. A mentionné également 3 beaux livres de photos prises à l'époque de l'Algérie française sur Alger, Constantine et Oran. Souvenirs de là-bas, d'Elisabeth Fechner, publié chez Kalman Levy. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Michel Thomas et Antoine Viossa. Documentation, Violaine Ballet et Virginie Bloch-Lenné. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Merci Patrice Gélinet. Je rappelle que nous écoutions une émission précédemment diffusée le 29 octobre 2002. Demain, un autre témoin de 2000 ans d'histoire, Florence Artaud. Vous avez rendez-vous avec Vali, qui a 3 chroniqueurs aujourd'hui. Jean Pierrot pour sa minute élastique entre 14h et 15h. Et puis entre 15 et 16h, pardon, il y aura Édouard Rex pour les ambulants. Et puis Stéphanie Grégaire pour les portraits de femmes. Vous écoutez France Inter, il est 14h. Les informations, Amaury Chardot, bonjour.
Bonjour, les obsèques de Marie Trintignant seront célébrées mercredi à Paris. Il n'y aura pas de célébration religieuse, mais une cérémonie au cimetière du Père Lachaise. Dans la matinée, un hommage sera rendu en privé à l'actrice au théâtre Édouard VII, en présence de la famille et de nombreuses personnalités du spectacle. D'autre part, Bertrand Cantat a été informé de la mort de son ex-compagne. Le chanteur de Noir Désir est toujours incarcéré à l'hôpital de la prison de Vilnius. Selon l'un de ses avocats, il est préférable qu'il reste pour l'instant sous surveillance médicale. médicale. Olivier Messner, son avocat français, doit lui tenter de rencontrer son client dans la journée pour organiser sa défense. Évasion d'un détenu du centre pénitentiaire de Metz. L'homme s'est enfui lors d'une visite à l'hôpital. Alors qu'il réintégrait son fourgon, un motard a surgi, braqué une arme contre le surveillant. Le détenu a alors sauté sur la moto. Il purgeait une peine de 5 ans de prison pour une affaire de stupéfiants. Les réactions se multiplient après la profanation à Ajaccio de la plaque commémorant l'assassinat de Claude Erignac. José Rossi, le président de l'Assemblée de Corse, dénonce un acte odieux associant le primaire aux barbares. Il a d'autre part lancé un appel à l'apaisement pour retrouver, je cite, la voie de la raison. Des problèmes d'hygiène dans 21 centres parisiens pour enfants, c'est le résultat d'une série d'inspections menées en juin et juillet par les services vétérinaires dans les cuisines de 96 centres. 17 d'entre eux ont été épinglés pour leur température de conservation alimentaire, 19 pour la procédure de nettoyage et 10 pour l'hygiène du personnel. Des avertissements ont été émis. 3 membres présumés de l'ETA mis en examen à Paris, ces 2 Espagnols et un Français interpellés mercredi à Cahors sont soupçonnés notamment d'associations de malfaiteurs. La police avait retrouvé dans leur maison 6 armes, plus de 420 kilos de chlorate de soude destinés à produire des explosifs ainsi que 3 lettres piégées. Selon le ministre espagnol de l'Intérieur, ce commando serait au service des membres de l'ETA.